Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Et on est ensemble jusqu'à 20h sur Europe 1 avec dans un instant le journal. Juste après, on ouvrira ensemble, comme tous les soirs, le débat du Club des Idées. On parlera des avis des consommateurs sur Internet qui influencent la réputation des entreprises et qui pèsent énormément. 93% des internautes renoncent à un achat après avoir lu un avis négatif, c'est dire leur pouvoir. Il est tellement important que toute une économie s'est mise en place autour de ce phénomène. Comment faire le tri? Comment ne pas se faire piéger? On en débat dans 20 minutes. Juste avant, ce sera la carte blanche de Philippe Besson qui nous parlera de Nicolas Sarkozy, que certains à droite voient comme l'homme providentiel de la présidentielle de 2022. Mais d'abord, le point sur l'info avec vous, Christophe Lamarre. Il est 19h, merci à vous d'écouter Europe 1.
Notre programme de vaccination a complètement changé la donne en notre faveur. Certains estiment que nous pourrions aller plus vite, mais la fin est proche.
Et au bout du tunnel, il y a la lumière. Le Premier ministre britannique Boris Johnson présente son plan de déconfinement progressif.
Le pays qui a enregistré un nombre record de décès avec plus de 120 000 morts voit la vague de contamination enfin reculer. Première décision, toutes les écoles rouvriront le 8 mars.
Le Royaume-Uni relâche la pression pendant ce temps. Dans le sud de la France, on remet un coup de vis supplémentaire. La Côte d'Azur met en place un confinement inédit.
Et oui, il faudra rester à la maison les deux week-ends prochains. Les magasins, les commerces et les galeries de plus de 5000 mètres carrés, eux, devront rester fermés.
Voilà qui devrait satisfaire les tenants du tester, tracer, isoler, rentrer des classes à Bordeaux, Limoges ou encore Grenoble. Et une nouveauté, certains écoliers ont eu droit au premier test salivaire.
Rentrer des classes aussi à Lyon et première polémique entre le maire écolo qui retire la viande des cantines scolaires et le gouvernement.
Va-t-on éviter le pire avec l'Iran, toujours soupçonné de vouloir fabriquer la bombe atomique? Téhéran promet une réponse. On vous en parle avec notre expert des questions internationales, l'œil de Didier François dans ce journal.
Anissa Haddadi, après un lundi plutôt gris, ce sera un mardi tout à fait printanier.
Oui, c'est réellement demain, Isabelle, que la belle semaine va commencer avec une journée printanière qui sera le réel début de nombreuses belles journées. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La Grande-Bretagne fait donc un grand pas en avant vers le déconfinement. Boris Johnson vient de présenter son plan du jour d'après aux députés.
Une stratégie du déconfinement qui tient en 4 étapes, avec un Boris Johnson qui donne des dates, certes, mais à titre indicatif. On vous retrouve en direct, Anaïs Cordoba, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres, avec un Premier ministre qui néanmoins reste quand même très prudent.
Oui, car le but de Boris Johnson est que chaque levée de restriction soit irréversible. Le retour à la vie normale va donc se faire en 4 étapes, chacune espacée de 5 semaines. D'abord, c'est la réouverture des écoles le 8 mars et l'autorisation pour 6 personnes maximum de se réunir en extérieur. Deuxième étape, le 12 avril, avec la réouverture des commerces non essentiels et des terrasses des restaurants et des bars. Troisième étape, le 17 mai, ouverture complète des restaurants ainsi que des salles de concert, théâtre, cinéma et hôtel. Enfin, quatrième et dernière phase, le 21 juin, les mariages et événements de grande ampleur sont de nouveau autorisés. Boris Johnson est confiant, grâce à la vaccination, ce confinement devrait être le dernier.
Notre programme de vaccination a complètement changé la donne en notre faveur. Certains estiment que nous pourrions aller plus vite, et je les comprends. Mais la fin est proche. Une année gâchée va laisser place à un printemps et un été qui seront très différents et incomparablement meilleurs que notre situation actuelle.
17,5 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin au Royaume-Uni et le gouvernement a promis d'offrir une première injection à chaque adulte d'ici fin juillet.
Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. À l'instant, aux États-Unis, Joe Biden ordonne la mise en berne des drapeaux pour marquer le 500 000 de décès de morts du Covid aux États-Unis. En Allemagne, on est encore loin du déconfinement, mais les écoliers ont repris le chemin de l'école primaire dans 10 régions sur 16, et ce, malgré les craintes d'une troisième vague.
Et on est allé encore plus loin dans les Alpes-Maritimes, où l'on va expérimenter un confinement inédit.
Puisqu'une partie du département devra rester effectivement confinée du vendredi soir 18h jusqu'au lundi matin 6h, 2 week-ends de suite.
Les commerces et les magasins de plus de 5000 m² devront fermer. Seules les pharmacies et les commerces alimentaires pourront ouvrir. Les précisions de Bernard Gonzalez, le préfet des Alpes-Maritimes.
La situation épidémique actuelle impose également une restriction des déplacements et donc un confinement partiel. Alors pour les 2 week-ends à venir, les déplacements seront interdits dans les communes de l'aire urbaine littorale. L'aire urbaine littorale, c'est cette zone qui s'étend de Menton à Théoul-sur-Mer, et qui concentre près de 90% de la population du département, et zone qui est le principal lieu de contamination. Notre souci en mettant en place ce zonage a été de préserver autant que possible les populations des vallées déjà durement touchées par la tempête Alex. Cette mesure prendra effet dans la zone définie le vendredi soir à 18h et jusqu'au lundi matin à 6h.
Le préfet des Alpes-Maritimes au micro de Frédéric Michel. La rentrée des classes pour la zone A, c'est-à-dire Bordeaux, Lyon ou encore Grenoble, avec une nouveauté, les tests salivaires pour enrayer l'épidémie dans les écoles.
Et dans les maternelles et les classes élémentaires, ces tests salivaires sont une bonne nouvelle pour les enfants. Forcément, c'est beaucoup moins désagréable que l'écouvillon dans le nez, Anne Le Gall.
Oui, concrètement, il faudra un accord écrit des parents et ensuite les élèves devront tout simplement cracher au moins 1 ml de salive dans un flacon en plastique. Cet échantillon sera ensuite récupéré par un laboratoire du secteur. Il sera analysé par méthode PCR, la même que pour les tests nasopharyngés, et le résultat sera rendu en 24 heures. Les parents et l'école en seront avertis très vite pour organiser l'isolement à la maison, voire éventuellement la fermeture des classes. Et si le test est positif, un criblage sera aussi effectué pour rechercher le variant anglais ou sud-africain par exemple. Ces tests salivaires ont démarré dès aujourd'hui à Saint-Étienne notamment, mais le dispositif va se déployer progressivement dans les écoles primaires dans lesquelles on suspecte une forte circulation du virus. Tout ceci se fait sur la base du volontariat. Ces dépistages sont pour l'instant réservés aux élèves les plus jeunes, en maternelle et en élémentaire, et l'objectif est de réaliser 50 000 à 80 000 tests salivaires par semaine dans les écoles avant éventuellement d'élargir le dispositif au collège et au lycée.
Anne Le Gall. À Ajaccio, la préfecture a été occupée brièvement par des jeunes nationalistes.
Nationalistes qui font partie d'un collectif de soutien aux détenus condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac. Jean-Sébastien Soldaini, il demande que ces détenus puissent finir de purger leur peine en Corse.
Et c'est une vingtaine de personnes qui réussissent à se glisser derrière les grilles de la préfecture au moment où une voiture de service sort. Ils s'engouffrent dans le bâtiment par l'immense escalier de marbre, passent devant la stèle dédiée à Claude Erignac et tentent d'entrer par la force dans le bureau du préfet. C'est ce que précise le communiqué des autorités. C'est finalement dans le bureau du chef de la sécurité de Lille qu'ils se retrouvent. Parmi eux, il y a le fils d'Alain Ferrandi, l'un des deux détenus dont il réclame la levée du statut de DPS, détenu particulièrement signalé. Ce changement permettrait aux deux hommes condamnés à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac de bénéficier d'un transfert vers la Corse. Une action que soutient ouvertement le président autonomiste de la région, Gilles Simeoni, avocat d'Ivan Colonna à l'époque, qui rappelle une promesse du président de la République.
Il avait pris un engagement, Emmanuel Macron, non pas avec moi, mais il avait pris devant les familles de ces condamnés lorsqu'il était candidat, en disant que s'il était élu président de la République, le droit serait appliqué à ces personnes, et notamment leur droit au rapprochement. 3 ans après, malheureusement, cette promesse n'a pas été accomplie.
La vingtaine de jeunes Corses est sortie de la préfecture au bout 1h30 à pied après avoir été évacuée des bureaux par la force. Pas d'interpellation, mais la préfecture précise dans son communiqué que des plaintes seront déposées.
Jean-Sébastien Soldaini. Et puis après la condamnation à 25 ans de prison de Jonathan Daval, la famille de son épouse Alexia a réclamé plus de 800 000 euros de dommages et intérêts pour le meurtre de leur fille. La cour rendra sa décision le 25 mai.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
19h09, c'est la suite de votre journal. Christophe Lamar et l'Iran qui a décidé d'accorder un sursis temporaire à la mission des inspecteurs de l'Agence pour l'énergie atomique, mission qui aurait dû prendre fin cette nuit.
L'organisme de contrôle des Nations Unies va donc pouvoir continuer à surveiller le programme nucléaire iranien pour une durée de 3 mois.
Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Ce délai consenti par Téhéran, c'est un geste de bonne volonté?
Alors c'est en tout cas un signal encourageant qui indique la volonté de l'Iran d'offrir une chance à une solution diplomatique pour revitaliser ce traité de non-prolifération nucléaire. On n'est pas tout à fait un retour à l'accord de 2015 qui interdit à la République islamique de se doter de l'arme atomique, loin de là, mais c'est une réponse positive aux ouvertures faites par la nouvelle administration américaine à la veille du week-end. Vous vous en souvenez, on en a parlé vendredi, le président Joe Biden a décidé de lever toutes les sanctions imposées à l'économie iranienne par Donald Trump à partir de 2018 lorsqu'il avait dénoncé le traité. Là aussi, on n'est pas sur un retour aux conditions originelles de l'accord, mais c'est une main tendue, une façon pour les États-Unis de faire un premier pas, ce qui semble finalement assez logique, vu que c'était eux qui avaient été à l'origine de la rupture. Le problème étant qu'entre-temps, le régime iranien s'est mis à la faute en augmentant ses stocks de matières fissiles, en multipliant le nombre de ses centrifugeuses et en poussant au-delà des limites acceptables l'enrichissement de son uranium. Et donc, on était sur une trajectoire dangereuse qui rapprochait la République islamique de la bombe atomique et augmentait le risque d'une intervention militaire pour l'empêcher d'y aboutir. Alors, et donc, il était temps, effectivement, d'arrêter l'escalade.
Alors, arrêter l'escalade, mais quelles seront donc, du coup, les prochaines étapes?
Alors, les États-Unis et l'Iran, donc maintenant 3 mois, on l'a dit, pour s'entendre sur les modalités et sur le cadre de négociation, dont l'objectif, ce sera de définir un calendrier selon lequel Washington lèvera ce qui reste de sanctions économiques au fur et à mesure que Téhéran remettra son programme nucléaire dans les clous du traité de 2015. C'est ce qu'on appelle un séquençage. En fait, ça ressemble beaucoup à ce jeu d'enfant, vous savez, dans la cour d'école où on s'approche pas à pas en disant chou-fleur, chou-fleur. Bon, ça peut prendre du temps et on n'est jamais totalement certain que ça ne se termine pas par une bagarre.
Bon, écoutez, merci Didier François, l'œil du Didier François, spécialiste des questions internationales dans le journal de 19h. Et puis, puisque vous parliez de la cour de récré, c'était la rentrée des classes aujourd'hui. Pour les élèves de la zone A et à Lyon, cette rentrée, elle s'est faite à peu près normalement, sauf qu'à midi, eh bien, les élèves n'ont pas eu de viande et pour cause, le maire écologiste instaure le menu végétarien, sans viande en tout cas.
Indignation d'une partie de l'opposition, la droite lyonnaise et le gouvernement parlent de mesures idéologiques. On y est même allé très fort du côté de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui dénonce la politique morale et élitiste des Verts et donc de leur maire Grégory Doucet. Sauf qu'en face, on a des arguments, Claudia Bertram.
Oui, le premier, c'est que c'est une façon de s'adapter au nouveau protocole sanitaire dans les écoles, car ça permet de faire manger tous les élèves plus rapidement. Deuxième argument avancé par la municipalité lyonnaise, c'est qu'elle applique exactement la même mesure que celle instaurée en mai au sortir du premier confinement. C'était alors un certain Gérard Collomb, ancien membre du gouvernement, qui était à la tête de la ville. Pour les Verts, il s'agit donc d'une fausse polémique et Sandra Regol, la numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, y voit une manœuvre politicienne.
Tout ceci est une vaste plaisanterie, pour le dire très poliment, mais ce qui se cache derrière est très inquiétant. Ce gouvernement semble déjà être en proie à une obsession qui est celle de la présidentielle et donc chercher à taper les écologistes. Je trouve ça déplorable.
Et certains au sein du gouvernement ne partagent pas vraiment les critiques de leurs collègues. Ce matin, le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, a joué, lui, l'apaisement.
Je fais des menus végétariens à mes propres enfants. Hier soir, c'était patricote épinard, pour ne pas vous cacher les choses. Donc, je ne suis absolument pas choqué et certainement pas scandalisé qu'on puisse proposer des repas sans viande ou sans poisson à l'école. La question, c'est quelle est la motivation sous-jacente. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas pour moi lieu à polémiquer.
De son côté, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, regrette ce qu'elle considère être un débat préhistorique. La polémique n'est donc pas au goût de tous les ministres.
Merci beaucoup Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Patricote épinard, donc chez les Véran hier soir. Coup de froid sur l'immobilier, la Banque de France va durcir les conditions de prêt aux particuliers.
Avec un encours global de 1150 milliards d'euros, l'institution estime que le seuil critique est atteint. La France est devenue le pays de la zone euro où les ménages sont le plus endettés, dit-elle. La Banque de France veut notamment obliger les banques à inclure l'assurance du prêt dans le taux d'effort, c'est-à-dire le montant que vous devez rembourser chaque mois.
Un mot de tennis, Christophe, vous adorez ça. Novak Djokovic reste le numéro 1 incontesté.
C'est gentil de me laisser de la place pour le dire. Le Serbe conforte sa place de numéro 1 mondial au classement ATP après sa victoire à l'Open d'Australie. Son dauphin s'appelle Daniil Medvedev, finaliste hier. Raphaël Nadal est 3e et le bon de la quinzaine est à mettre à l'actif de la surprise Karatsev. Il gagne 72 places. Et chez les femmes, parce que c'est important, Naomi Osaka, sacrée elle aussi ce week-end, revient à la 2e place de la WTA derrière Ashley Barty. Coup de chapeau à Fiona Ferro, la française est 45e et nouvelle numéro 1, tricolore.
Je vous l'avais dit, il aime le tennis. C'était le journal de Christophe Lamar que l'on retrouve demain dès 18h. Et maintenant, c'est la météo d'Anissa Haddadi. Anissa, ce sera nuageux le matin avant une journée que vous nous promettez lumineuse demain.
Oui, sur la Normandie, les Pays de la Loire, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et les Cévennes. Dans toutes ces régions, le ciel est couvert en début de journée avec des risques de brouillard. Mais au fil des heures, le ciel va très nettement se dégager et c'est le soleil qui s'impose. Demain après-midi sur les trois quarts du pays, nous avons toujours des averses présentes sur les Cévennes. Il a beaucoup plu aujourd'hui. Demain, ça sera un petit peu plus calme mais toujours très humide. Et puis dans le golfe du Lion, sur les Pyrénées et la Bretagne, nous avons du vent qui souffle fort. Alors sur le golfe du Lion, c'est le vent d'autan. Et puis en Bretagne et sur les Pyrénées, c'est le vent du sud qui va souffler jusqu'à 80 km/h. La douceur est de retour demain avec 2 à 12 degrés du nord au sud le matin et 13 à 20 degrés dans l'après-midi. Nous aurons 13 degrés à Quimper,
16 à Nantes et Lille, 18 degrés pour Paris, 19 à Lyon et Besançon et 20 degrés pour Biarritz et Montluçon, la maximale. Et je vous le disais, et je le maintiens, demain sera le début d'une longue série de très beaux jours.
Eh bien, nous vous remercions une nouvelle fois. Merci Anissa, on vous dit à demain.
À demain.
19h15 sur Europe 1, dans un instant, la guerre des commentaires sur Internet. Que faut-il penser des avis des consommateurs? Comment démêler le vrai du faux? Mais d'abord, c'est la carte blanche du jour.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est Philippe Besson qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Isabelle.
Alors, vous vouliez évoquer Nicolas Sarkozy parce que certains à droite, semble-t-il, voient en lui l'homme providentiel pour l'élection présidentielle de 2022. Tiens donc, vous vous gardez de faire un pronostic, mais vous souhaitez quand même nous faire part de vos doutes.
Oui, alors, mais avant de m'intéresser au potentiel électoral de l'ancien président, je voudrais, si vous le permettez, revenir un instant sur la polémique qui a surgi à son sujet en fin de semaine dernière. Vous le savez, hein, on a appris que Nicolas Sarkozy a été vacciné contre le Covid au début du mois de janvier, alors qu'il a 66 ans, loin, très loin donc, des 75 ans requis pour bénéficier du vaccin. Du coup, de deux choses l'une. Soit il est atteint d'une pathologie grave qui justifierait ce traitement particulier. Et dans ce cas, il faudra finir par nous le dire, car on est en droit de savoir si un éventuel candidat, puisque c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, souffre d'une affection sérieuse qui pourrait l'empêcher d'exercer des fonctions éminentes. Soit il a bénéficié d'un passe-droit et ça ne va pas arranger sa popularité dans un pays comme le nôtre qui est si attaché à l'égalitarisme et à l'exemplarité.
Bien, refermons cette parenthèse sanitaire et revenons donc au sujet politique. Et d'abord, dites-nous, qui considère Nicolas Sarkozy comme celui qui serait capable de ramener la droite au pouvoir?
Eh bien, Éric Ciotti, par exemple, qui estime qu'il est une espérance et que beaucoup d'électeurs lui restent fidèles. Christian Jacob, qui explique que pour sortir du bazar, il faut un homme avec de l'autorité, comme celle de l'ancien chef de l'État, ou Frédéric Pechenard, vous savez, qui est vice-président de la région Île-de-France, pour qui il est exceptionnel. D'ailleurs, c'est bien simple, jure-t-il, si Sarko était président, nous aurions eu les vaccins. Oui, et les masques aussi, et les tests, et on aurait tout bien fait, et si ça se trouve, les virus n'auraient même pas débarqué en France, tellement il aurait eu peur de l'ancien président. Je pourrais citer encore Nadine Morano ou une poignée non négligeable de vieux encartés LR. Ça n'est pas rien, mais ça ne fait pas un raz-de-marée pour l'instant. Quelques grognards n'ont jamais suffi à constituer une armée.
Mais d'après vous, que signifie cet espoir donc placé en lui visiblement?
Et bien, que la droite n'est pas en bon état. Si elle estime devoir s'en remettre à un homme qui a été renvoyé par les électeurs en 2012 et balayé par les votants à la primaire de 2016, c'est qu'elle ne fait pas grand cas du suffrage universel. Ça démontre également combien la droite reste divisée en plusieurs chapelles, tiraillée entre la tentation du copinage avec l'extrême droite, la tradition gaulliste et le flirt avec la Macronie, car Nicolas Sarkozy serait le seul en mesure de masquer ces contradictions béantes. Et cela dit aussi qu'aucun candidat naturel n'émerge. François Baroin, on le sait, a déclaré forfait. Michel Barnier joue les divas, mais qui a réellement envie de lui? Bruno Retailleau ne fait rêver que la droite Trocadéro. David Lisnard, le maire de Cannes, croit en son étoile, mais pour l'instant, il est à peu près le seul. Et Xavier Bertrand, qui a quitté le navire en 2017 et voudrait opportunément remonter à bord, n'inspire guère confiance. Tous ont en commun d'être des personnalités de seconde zone.
Eh bien, dis donc, ça taille ce soir. Donc, finalement, l'hypothèse Sarkozy, si l'on vous entend bien, n'est pas si absurde.
Eh bien non, pas si absurde. Alors, pour ça, il faudrait d'abord qu'il sorte indemne de son marathon judiciaire. On sait qu'il sera fixé sur son sort la semaine prochaine dans le procès des écoutes, où il a comparu pour trafic d'influence et corruption, deux chefs d'accusation plutôt infamants. Ensuite, il sera jugé du 17 mars au 15 avril pour financement illégal de campagne électorale. S'il devait être condamné, ses chances seraient sans doute hypothéquées. Mais Imaginons qu'il sorte blanchi, il faut encore qu'il en ait envie. Or, il n'a rien exprimé de tel et on croit comprendre que son épouse n'est guère emballée par une nouvelle campagne et ne semble pas pressée de retourner à l'Élysée. Surtout, il faut qu'une situation favorable se crée. Or, aujourd'hui, l'espace politique qu'il représente, il est occupé d'un côté par Emmanuel Macron, qui s'est adjoint Jean Castex, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou Jean-Michel Blanquer, et de l'autre par Marine Le Pen, qui est tranquillement assise sur ses 25% d'intention de vote. Cela étant, un imprévu peut évidemment surgir et un trou de souris s'ouvrir. Alors, à la faveur d'une manœuvre éclair et en apparaissant comme un recours, Nicolas Sarkozy a ses chances. Mais quand on fait le compte des obstacles à surmonter et des surprises nécessaires, on se dit qu'il a quand même besoin d'un sacré alignement des planètes.
Bon, on suivra ça, l'avenir nous le dira.
Absolument.
Merci à vous, c'était la carte blanche du lundi de Philippe Besson. Merci.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h22, on ouvre notre débat du Club des idées sur Europe 1 autour de cette question. Peut-on faire confiance aux avis sur Internet? Certains d'entre vous sont sans doute en vacances en ce moment. Alors comment l'avez-vous choisi, votre chambre d'hôte à la campagne ou votre chalet à la montagne? Nous sommes de plus en plus nombreux à étudier avec attention les commentaires des précédents clients afin de nous assurer que nous faisons le bon choix. Et il en va des locations de vacances comme des hôtels, des restaurants, quand ils pourront rouvrir, et de beaucoup d'autres choses. Hein. Pratiquement tout ce qui s'achète est sujet à commentaires sur Internet, les livres, les aspirateurs. On note aussi les kinés, les médecins, les hôpitaux, les auto-écoles, les esthéticiennes. Les avis des consommateurs sont devenus incontournables, mais c'est le revers de la médaille face à ce succès. De nombreuses fraudes se sont développées. Alors comment démêler le vrai du faux? On en parle avec mes invités, avec à mes côtés ce soir Jean-David Lépineux, fondateur d'Opinion System. C'est une entreprise qui s'occupe d'authentifier justement ces avis, notamment chez les professionnels de l'immobilier et les auto-écoles. Bonsoir.
Bonsoir.
Virginie Pèze, spécialiste du comportement du consommateur, maître de conférence à l'Université Paris 2 Assas. Bonsoir.
Bonsoir.
Olivier Guéraud, également juriste à l'association de consommateurs CLCV. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous sommes en ligne avec Ambre Frantzen, qui est directrice associée de l'agence eSmart, spécialisée dans l'e-réputation et social media manager. Bonsoir à tous les quatre.
Alors, bonsoir.
70% des internautes consultent les avis de consommateurs avant de faire un achat. On parle donc d'un sujet très, très concernant, sachant qu'avec la crise actuelle, nous sommes de plus en plus nombreux à acheter sur Internet. Je voudrais d'abord qu'on revienne peut-être sur l'origine de ces évaluations de consommateurs. Ça remonte à quand, Olivier Guéraud? Au tout début d'Internet?
Je pense que c'est quelque chose qui s'est particulièrement développé ces dernières années parce que ça donne une véritable valeur ajoutée au site. Sur Internet, le consommateur, il ne peut pas par définition toucher le produit, évaluer rien. Donc si vous voulez l'orienter davantage sur la vente en ligne plutôt qu'en réel, il faut lui donner le sentiment qu'il a plein d'évaluations fiables. Donc les avis de consommateurs, ça existe depuis longtemps. Je pense que ça se développe depuis quelques années seulement.
C'est ça qui en fait a remplacé le bouche à oreille autrefois. C'est le voisin qui vous disait « j'ai trouvé un bon resto, j'ai acheté un bon aspirateur », etc. Alors aujourd'hui, selon une étude Médiamétrie Orange, 96% des internautes prêtent attention aux notes et aux avis et 89% les jugent utiles, pour voire indispensables dans leur processus d'achat. C'est le cas notamment de Yasser.
Quand je regarde les notes, j'ai l'impression d'avoir l'avis de personnes qui sont comme moi. Et donc je leur fais plus confiance que ce que dirait l'entreprise quand elles vendent leurs produits. Entre 4 et 5 étoiles, j'ai confiance en le restaurant ou le produit. Je mets des avis d'ailleurs quand je vais au restaurant après. C'est juste de la gentillesse envers les autres internautes, des empêcher de commettre une erreur.
Mettre un commentaire, c'est empêcher les autres consommateurs de commettre une erreur. Nous dit Yasser, effectivement, hein, Virginie Pèze, vu comme ça, c'est le bon côté des avis. Hein.
Voilà, exactement, c'est le bon côté des avis. Disons que le consommateur, en tout cas, va beaucoup plus faire confiance à des avis qui vont être postés par les autres consommateurs que par les descriptions que vont fournir les marques sur les sites Internet. Donc forcément, effectivement, ce sont des avis qui sont plus crédibles et qui vont inspirer confiance pour les consommateurs.
Alors, il y a quand même des consommateurs qui sont imperméables à ces commentaires, voire méfiants. Écoutez Marie au micro de Zoé Pallier.
Moi, je regarde pas. Je ne sais pas qui a mis les étoiles. Ça me semble assez subjectif. Je préfère des choses qui me semblent être plus des faits. Donc, je vais regarder la fiche technique. Puis, on ne sait pas qui les a mis. Est-ce que c'est pas le copain du marchand? Je préfère aller demander à quelqu'un que je connais qu'est-ce qu'elle en pense et pourquoi. Parce que là, on va vraiment avoir le temps d'échanger de façon plus complète à mon goût.
Jean-David Lépineux, est-ce que Marie, elle est représentative? On n'a pas toujours le temps de mener sa propre enquête, hein, comme elle. Hein.
Non, on n'a pas le temps de mener sa propre enquête. Aujourd'hui, monsieur l'a bien dit tout à l'heure.
Olivier Guéraud, oui.
Voilà, il a bien dit une chose qui était intéressante, c'est sur la partie des avis clients qui ont évolué. Aujourd'hui, dans un témoignage, on a entendu juste avant qu'entre 4 et 5 étoiles, on fait confiance.
Oui.
Voilà. En fait, les avis clients ont démarré, eux, il y a à peu près à la sortie de Booking. Ils étaient là avant, aux alentours de 2008. Et en fait, ils se sont propagés aujourd'hui. Et donc, en fait, les personnes entre 4 et 5 étoiles donnent un avis. Mais surtout, maintenant, c'est ce que disait la dernière consommatrice, elle n'y fait pas attention ou elle n'y fait pas confiance parce que fut un temps, dans les années 2015, les entreprises tentaient de n'avoir que de l'avis positif. Et donc, que de l'avis positif, c'est vite rentrer dans des travers marketing. Et rentrant dans des travers marketing, eh bien, ça faisait un peu fake et
oui,
faux.
Ça, c'était à l'époque où c'était moins contrôlé. Mais on va y revenir, il y a des contrôles aujourd'hui qui sont mis en place. 93% des internautes renoncent à un achat après avoir lu un seul avis négatif. C'est énorme comme chiffre, Virginie Pèze.
Oui, c'est absolument énorme. Et en fait, on se rend compte que finalement, la consultation de ces avis, aujourd'hui, ça fait partie d'une étape essentielle dans le parcours du client. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, il va regarder finalement les avis avant de faire son choix. Et puis, il peut renoncer très facilement en fonction de la nature de l'avis.
Alors, est-ce que il existe une norme, hein, on va en parler justement, une norme française qui permet d'encadrer les sites d'avis de consommateurs, sachant qu'il y a aussi une directive européenne. Comment la DGCCRF, c'est-à-dire la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des Fraudes, procède-t-elle pour contrôler ces avis, pour dénicher les frauduleux? Marie-Baptiste Duard a posé la question à Romain Roussel, il est directeur de cabinet de la DGCCRF.
Nous vérifions la loyauté et le caractère non trompeur de ces avis à partir d'enquêteurs spécialisés. Ils contrôlent les pratiques, mais aussi au-delà de cela, toutes les techniques mises en œuvre par les professionnels et qui lui permettent de se présenter faussement comme un consommateur. Que ce soit des notes indiquées, le nombre de fans qui suivent tel ou tel produit, des followers, des likes sur Facebook... Et sur les signalements également que nous pouvons recevoir de la part des consommateurs à travers la plateforme Signal Conso et à travers les professionnels aussi eux-mêmes qui parfois nous font part d'avis qui dénigrent leur société.
Je vous demande une réaction rapide parce qu'on va y revenir dans un tout petit instant. Ces contrôles actuels mis en place par la DGCCRF sont-ils suffisants d'après vous ? Jean-David Lépineux ?
Oui. Alors, en fait, les contrôles d'avis, est-ce qu'ils sont suffisants? J'ai envie de vous dire oui et non. Ils sont, par rapport à la DGCRF, ils sont essentiellement faits aujourd'hui sur de la délation. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, c'est des dénonciations qui sont faites, c'est des courriers où ils croulent sous les demandes pour venir contrôler. Et ils n'ont pas le temps de faire des contrôles inopinés et aléatoires, comme monsieur le cabinet indique.
D'accord, bah écoutez, c'est très intéressant. On va donc poursuivre ce débat dans un tout petit instant parce qu'on a encore plein de choses à se dire. On aura aussi des témoignages, notamment un restaurateur qui a réagi avec humour. Vous le verrez après qu'un consommateur lui ait dit que son gratin dauphinois était congelé. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h30, on poursuit notre débat du Club des idées d'Europe 1. On s'intéresse ce soir aux avis des internautes. Internet qui offre une liberté d'expression qui modifie totalement de nos jours le rapport de force entre le client et la marque. Alors, menace ou opportunité, on continue d'en parler avec mes invités. Jean-David Lépineux, fondateur d'Opinion System. Virginie Pèze, spécialiste du comportement du consommateur. Olivier Guéraud, juriste à l'association de consommateurs CLCV. Et Ambre Franssen, directrice associée de l'agence eSmart qui est spécialisée dans l'e-réputation. Alors on a vu tout à l'heure qu'il y avait des normes qui ont été mises en place aujourd'hui, mais comment être sûr malgré tout, malgré ces normes, que les avis que l'on lit aujourd'hui en 2021 sur Internet sont fiables et qu'ils proviennent bien de vrais consommateurs, Olivier Guéraud ?
Ben écoutez, moi je pense qu'on ne peut jamais en être totalement sûr. On a entendu parler de trucs, utilisation de majuscules, courbes. Statistiquement, des solutions, il y en a certainement. Mais moins vous avez d'avis en volumétrie et moins vous pouvez être sûr de leur fiabilité d'une manière globale. Il est très important de ne pas se contenter de ça. Vous avez d'abord le descriptif du produit, comme votre auditrice le disait, le choix c'est ça. Et puis peut-être multiplier les sources d'informations sur ce produit. Sur Internet, c'est facile, oui, vous ouvrez d'autres pages pour pouvoir aller le chercher à un autre
endroit. Et là, on peut déceler endroit. Peut-être une petite faille et se dire que c'est pas si bien que...
croiser les informations. Quoi.
Mais on disait autrefois qu'il existait des sociétés spécialisées moyennant finance dans l'art et la manière de rédiger de faux avis, de créer de fausses identités. C'est toujours le cas, Jean-David Lépineux ?
Oui, malheureusement, c'est toujours le cas. Mais on les repère. Maintenant, on les repère. Quand je dis on les repère, il suffit que vous alliez sur un site, ces robots ont pour habitude, en fait, quand vous les commandez, de vous livrer les avis par bloc.
Ouais.
Donc, si vous regardez les avis sur les 6 derniers mois...
C'est-à-dire, expliquez-nous... Ça...
Par bloc, ce que j'appelle par bloc, c'est que quand ils vous les livrent, vous allez commander en fait, de faux avis. Et ils vont vous les livrer par trentaine ou quarantaine, mais dans le même mois. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils vont vous faire ça en une espèce d'une semaine. Ça va aller très, très vite. Ils vont vous les rédiger très, très vite. Donc, une des premières astuces pour savoir si un site est vrai ou s'il fait des faux avis, remontez sur ces 6 derniers mois. Et regardez si tous les mois, pendant une période de 15 jours, vous voyez une quarantaine d'avis qui ont été déposés. Si vous voyez une quarantaine d'avis qui ont été déposés, c'est fait par des robots.
Voilà,
ça, c'est la première chose à savoir. Et ensuite, une deuxième astuce que je peux donner aux auditeurs, qui est très très facile, si vous êtes face à un choix qui nécessite impérativement de l'avis client, parce qu'on peut être face à des choix anxiogènes qui nécessitent impérativement d'avoir un retour client. Si vous voulez être sûr de la fiabilité de ce site, il n'y a pas 50 solutions. Tentez de déposer vous-même un avis. Si dans les 48 heures, il est validé, vous avez la réponse sur la fiabilité du site.
Mais je pensais que pour pouvoir déposer un avis soi-même, il faut avoir soit une preuve d'achat. On a été dans cet hôtel, donc on a le droit de commenter si la vue de la chambre est belle, ou on a acheté ce robot mixeur et on a le droit de dire qu'il est puissant ou pas.
Alors oui, mais pas tous. C'est certains sites. Alors par exemple, si on prend le site de Booking, lui, vous pouvez poser une évaluation qu'après consommation. Oui. D'accord, c'est le cas d'Amazon, c'est le cas de Cdiscount et d'autres sites comme ça. Mais il y a d'autres sites de consommateurs en ligne, ce qui était l'exemple et tous les grands débats de TripAdvisor. TripAdvisor, vous pouvez déposer un avis sur TripAdvisor quand vous le souhaitez, sans avoir fait de voyage. Et c'est le cas de tous les avis Google que vous voyez aujourd'hui. Toute personne qui détient un compte Google peut déposer un avis sur le Google My Business de l'entreprise sans qu'aucun contrôle de ceci soit fait.
On risque rien.
Il n'y a aucun risque.
Peut-être que je peux vous poser la question, Olivier Guéraud. Le consommateur ne risque rien et le commerçant qui serait pris en flagrant délit de faux avis, lui, il risque quoi ?
Alors, il faut attraper le commerçant, il faut pouvoir rapporter la preuve, mais le fait pour un professionnel de se présenter faussement comme étant un consommateur, c'est une pratique commerciale trompeuse, ça c'est sûr. Maintenant, il faut appréhender la personne, il faut rapporter la preuve de tout ça. De mon point de vue, ça reste quand même assez théorique dans bien des cas.
Bon, je voudrais qu'on prenne en ligne un restaurateur qui, comme beaucoup, a été confronté à des avis plus ou moins agréables de la part de ses clients. Bonsoir Sébastien Balporès.
Bonsoir, vous enchanté.
Enchanté, voilà. Vous êtes en ligne de Biarritz, vous avez eu plusieurs établissements, vous en avez eu un à Anglette, un autre à Paris qui s'appelait la Peña Festaire, c'est ça ?
Peña Festaire, exactement.
Vous allez nous parler de votre expérience avec votre bel accent, mais je voudrais d'abord qu'on passe un extrait d'une petite vidéo que vous avez réalisée il y a 3 ans pour répondre justement à un client qui sur TripAdvisor avait laissé entendre que chez vous, le gratin dauphinois était surgelé. Vous avez posté 7 vidéos pour lui répondre.
Je vais prendre un exemple personnel qui m'a touché, où une personne sur un site TripAdvisor, après avoir bien démonté mon établissement, s'est permis d'écrire que l'on servait un gratin de pommes de terre en boîte. Nous nous trouvons dans la cuisine de la Peña Festaire. Alors, cher ami internaute qui se reconnaîtra, étant donné que tu ne sais pas faire la distinction entre un gratin de pommes de terre en boîte et un gratin de pommes de terre maison, je te mets au défi de venir peler les 300 kg de pommes de terre que l'on reçoit toutes les semaines.
Alors, on sourit sous nos masques, on n'est pas à la radio. Enfin, on est à la radio, on n'a pas l'image, je voulais dire, mais on vous voit effectivement avec des kilos de patates à côté de vous. Voilà. Vous auriez pu simplement être vexé par ce commentaire. Vous avez choisi de lui répondre avec humour. Cette vidéo, elle a été vue par plus d'un million et demi de personnes quand même. Hein.
1,5 million de personnes, ça a été le premier coup de gueule contre les sites TripAdvisor et tout ce genre de sites. Vexé, en toute franchise, je vous réponds, on est tous vexés. Dans la profession, quand on discute entre nous, on est tous vexés parce qu'on passe des heures dans notre outil de travail, on y met beaucoup le cœur, et quand vous voyez des avis qui débarquent comme ça, avec des gens qui n'ont pas forcément les compétences pour parler, qui mettent entre guillemets un peu n'importe quoi, et à la finalité, c'est une horreur, puisqu'ils se permettent, ces gens-là, de dire qu'on fait des horreurs. Ça fait très très mal, voilà. Alors après, moi, j'ai décidé de répondre à cette jeune fille avec de l'humour, avec beaucoup d'humour, parce que la Peña Festaire est un lieu que j'ai tenu pendant 13 ans à Paris, assez rock'n'roll, très sud-ouest, très fêtard, avec beaucoup d'humour. Donc j'ai décidé de lui répondre comme ça, tellement la chose me paraissait énorme. Voilà, donc j'ai pris l'humour.
Vous restez avec nous, évidemment, Sébastien Balporès, on vous retrouve dans un instant. Virginie Pesse, il a eu raison de réagir comme ça, ce restaurateur ? C'est la bonne tactique ?
Oui, exactement. Il faut en fait que la marque se saisisse de l'opportunité d'un avis négatif pour répondre en fait. Hein. L'erreur qui pourrait être faite, c'est justement d'ignorer ces avis négatifs. Il faut les voir comme des opportunités de pouvoir montrer en fait justement qu'on est digne de confiance et qu'on est crédible et peut-être même de se nourrir de ces avis pour essayer de s'améliorer.
Oui, parce que ce restaurateur, il nous parlait beaucoup du côté humain, mais il y a aussi la réputation de son entreprise, et ça c'est quelque chose qui tient évidemment à cœur. Anne Franssen, je rappelle que vous êtes directrice associée de l'agence eSmart, vous êtes spécialisée dans l'e-réputation. Aujourd'hui, c'est devenu primordial, hein, notamment pour les sites de vente en ligne, hein, la réputation sur Internet.
Oui, parce que c'est la première porte d'entrée en fait. Et c'est ça aussi que les commerçants peut-être ont tendance à oublier parce qu'ils se disent « Ah bah tiens, je vais travailler ma e-réputation sur un écosystème très très large, un site web, des réseaux sociaux, peut-être des messageries, etc. » Et en fait, il y a des réseaux sociaux sur lesquels les gens ne sont pas et sur lesquels on parle d'eux. Et ne pas être sur les réseaux sociaux ou faire parfois un choix arbitraire des plateformes, c'est laisser les autres parler à sa place, en fait, et ne pas prendre l'opportunité de répondre à des mensonges, hein, comme on l'a vu avec le restaurateur, où effectivement la réponse était excellente, mais aussi de voir que la critique négative peut être une opportunité, parce que la critique négative, surtout quand elle vient parfois en masse, sur des plateformes très libres, des agora publics, hein, comme Twitter par exemple, c'est souvent révélateur d'un dysfonctionnement, en fait, et même ponctuel. Ça peut être, par exemple, pour un site e-commerce, des problèmes de livraison. Là, avec la crise sanitaire, évidemment, ça fait un an que, après la crise abondant, mais on se retrouve avec des prolongements de livraison, etc., de délais de livraison. Et donc, je pense que ce qui va jouer, c'est vraiment la relation qu'on va tisser avec sa communauté, c'est la manière avec laquelle on va lui parler. Ne pas considérer la communauté comme une masse de commentaires négatifs, en fait.
Mais individuellement, oui.
Voilà, mais de personnaliser la relation avec... une tonalité particulière, avec une approche particulière, des angles particuliers. Alors, ça passe par de la modération, hein, y a pas de secret.
Mais c'est un job à plein temps, ce que vous nous dites, là, quasiment.
Ah, mais je vous le cache pas, oui.
Donc, il faudrait que quasiment chaque entreprise ait un community manager qui surveille tous les réseaux sociaux.
Non, parce que la volumétrie, après, est différente selon les marques, évidemment. Mais je pense, par exemple, à une marque comme la SNCF, qui a, quand tout va bien, 5000 mentions par jour sur Twitter. Évidemment, la modération n'est plus totalement humaine. Hein. En revanche, on se retrouve sur... des pages Facebook avec des volumétries de marques, hein, de grosses marques, avec des volumétries qui vont à une centaine de commentaires par jour. Là, humainement, c'est possible à modérer.
Oui, ça c'est possible surtout pour les petites entreprises. Je voudrais qu'on vous retrouve, Sébastien Balporès. Vous lisez, vous, généralement, tous les avis sur Internet ?
Alors, sincèrement, moi, j'ai pris la politique de ne pas les lire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai ouvert une cidrerie à Biarritz, que j'ai ouvert en juillet. J'ai pris ce parti. Maintenant, je vais vous dire, dans votre environnement, vous ne pouvez pas y échapper, parce qu'après, vous avez toujours un employé, un ami qui vous dit « Ah, t'as vu, là, t'as eu un mauvais ami ». Donc, en fait, il y a toujours quelqu'un qui vous le rappelle. Et moi, je n'aime pas trop m'attacher à ces choses-là. Quand on fait des erreurs, c'est bien de le savoir. C'est bien de les travailler.
Oui, maintenant, parce que ça peut être intéressant de savoir que ce jour-là, la serveuse, elle n'était pas très bien lunée et qu'elle nous a mal servi ou que effectivement la côte de bœuf, elle était un peu trop cuite. Ça peut aussi faire progresser ce genre d'avis.
Alors, si on fait bien notre travail, je pense que 80% des erreurs, on doit s'en apercevoir quand on est sur le terrain. Après, c'est vrai qu'on discute avec les gens, on peut s'apercevoir par ailleurs, c'est vrai, sur les sites internet d'autres erreurs. Moi, ce que je reproche à ces sites-là, c'est aussi que parfois, ils ne valident pas à la fois, est-ce que déjà, un, les gens sont venus chez nous, parce que ça arrive. Deux, on ne valide pas la compétence des gens qui sont permis de vous juger. Il y a des gens, ils font un seul commentaire. Ça serait bien que TripAdvisor, par exemple, nomme des gens qui sont experts, c'est-à-dire qu'au bout de 10 commentaires, on a le droit de publier peut-être ses avis pour être quelqu'un d'expert. Voilà. Aujourd'hui, on se fait juger par tout le monde. Et n'importe qui, et avec le bagage de connaissances qu'ils ont de la cuisine, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est très, très difficile à accepter, parfois.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-David Lépineux, de ce que dit ce restaurateur ? Il faudrait qu'il y ait des experts, en fait, uniquement des experts qui auraient le droit de juger, n'importe qui.
Oui, on voit bien qu'il est dans le monde de la restauration. Et ils ont l'habitude, dans le monde de la restauration, en fait, de se juger entre professionnels. Alors là, c'est très subjectif. Là, on parle de consommateurs. Alors, ce qui veut dire, c'est que c'est peut-être le rôle de la société Opinion System, c'est effectivement de contrôler les avis pour en avoir des fiables. Donc, en fait, l'expert est inversé. Ce monsieur voudrait être jugé, et je le conçois, hein, par des experts, parce qu'en fait, il fait des plats. C'est artistique ce qu'il fait, et donc ça peut en fait s'évaluer de façon artistique. Mais dans la vie de tous les jours, ce qu'il faudrait qu'il puisse avoir, ce sont des avis qui soient contrôlé, parce que c'est ça qu'il explique. Voilà, il explique que globalement, n'importe qui peut venir mettre un avis. À partir du moment où sur TripAdvisor, vous avez déposé 10 avis, vous êtes expert. En fait, vous n'êtes pas expert de ce qu'il fait, vous êtes expert en dépôt d'avis. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Et si les restaurateurs avaient effectivement des filtres de gens qui ont effectivement consommer réellement chez eux. Après, le retour, vous savez, sur de la restauration, il est très subjectif. Hein.
On ne peut pas plaire à tout le monde,
voilà,
forcément.
Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Par contre, là où je ne partage pas ce qu'il dit, c'est qu'il devrait porter, porter de l'intérêt aux avis qu'il a et y répondre. Et y répondre de façon systématique, même si les avis sont négatifs. Aujourd'hui, un avis négatif ne vient pas détruire une réputation, mais il est capital d'y répondre. Et au contraire, y répondre, ça démultiplie votre notoriété.
Et ça crédibilise, ouais. Oui, c'est ce que vous nous confirmez, Ambre Franzen, hein, quand on voit un commentaire où on nous dit « oui, on a bien entendu vos commentaires, on va les prendre en compte », c'est important ça pour l'image aussi.
Mais oui, parce qu'en fait, il y a deux choses à prendre en compte. Sur les réseaux sociaux, on est souvent confronté à un équilibre instable entre les arguments rationnels et l'émotion. Et quand on donne un avis, on va légitimer quand même un petit peu avec un petit peu d'arguments rationnels, hein, quand même, mais on est surtout dans l'émotion. Et le problème, c'est que quand on veut répondre, on a tendance à donner des preuves, des chiffres, à être dans une réponse technique. Or, il y a quelques années, la réponse technique pouvait suffire. Aujourd'hui, les arguments rationnels n'ont d'audience que si la phase émotionnelle, en fait, est gérée. Donc déjà, il faut, dégonfler un petit peu la crise potentielle, ou les levées de bouclier. Il faut les dégonfler un petit peu pour rester, en fait, sur l'aspect plus rationnel, l'aspect plus, plus factuel en fait. Et là, la réponse même en cas de commentaire négatif a plus d'impact. Ouais.
Vous seriez prêt à le faire, Sébastien Valporès, à privilégier justement ce côté humain et ne plus être trop dans la réactivité? Vous êtes blessé parce qu'on vous fait un commentaire qui vous a déplu?
Alors déjà, c'est ce que j'ai fait.
Oui, avec votre vidéo, évidemment. Voilà. Non, mais là, aujourd'hui, vous dites c'est fini, je ne regarde plus les avis.
Je suis d'accord avec elle puisque je l'ai fait. Oui. Voilà. Donc, j'essaye effectivement de répondre. Je vous avoue qu'il y a des fois, on n'a pas forcément la bonne idée. Il faut faire attention, on peut être vite énervé et aigri. Et je pense qu'il ne faut pas que ce soit ça qui ressort dans une réponse. Donc, quand on est, j'ai la parade, j'ai la réponse, je le fais. Il y a des gens, et c'est ce que je veux dire à cette personne, il y a des fois des gens, on se demande s'ils sont venus chez nous sincèrement aussi. Donc c'est pour ça que je dis, on est, ça serait bien de
scanner. Parfois, ils ne sont peut-être pas venus, hein, c'est possible aussi.
De prendre en photo la preuve, oui, parce qu'il y a de tout qui traîne là-dedans. Vous avez des jaloux, vous avez des concurrents, vous avez ça, des confrères, mais vous avez un peu de tout aussi. Donc il faut imaginer tout ça. Et moi, je trouve personnellement que des fois, c'est difficile de répondre. Alors, heureusement, on n'en a pas des centaines par jour que j'entendais, mais de temps en temps, ce n'est pas tout le temps évident de répondre. Voilà.
On essaye, bien sûr.
C'est ce qui se dit. En tout cas, on entend tout le temps quand on lit sur comment il faut réagir. On nous dit qu'il faut répondre. Oui, c'est vrai. Bon, on essaye de le faire. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Sébastien Valporès. Merci de nous avoir appelé en direct de Biarritz, où vous tenez donc la ciderie Cambar, c'est ça, hein ?
C'est ça, exactement.
Merci à vous et très bonne soirée. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur effectivement cette notion de commentaire. Virginie Pesse, vous êtes spécialiste du comportement du consommateur. Ça rassure, hein, de voir quelqu'un qui dit « oui, ok, votre machine à café ne fait pas du café assez chaud, on a bien pris en compte, on veillera à ce que ça ne soit plus le cas ». Enfin, je ne sais pas, des choses comme ça.
Oui, le fait de répondre en fait à des avis, c'est aussi l'occasion de tisser un lien plus fort avec les clients quelque part. Parce que la marque va prendre en compte l'avis négatif, va essayer de les conseiller au mieux, peut-être même pour les aider à mieux utiliser leurs produits. Je pense par exemple à la marque Decathlon. Decathlon, en fait, systématiquement, ils répondent aux avis qui sont laissés en ligne, et notamment les avis négatifs, peut-être pour conseiller aussi un produit qui serait plus adapté aux besoins du consommateur. Et donc là, finalement, le consommateur qui n'était pas content d'avoir son produit, on lui propose de revenir en magasin et d'échanger son produit contre un produit qui serait plus adapté. Et finalement, il est peut-être encore plus content, ce consommateur, que lorsqu'il a acheté son premier produit.
Alors là, on parle beaucoup de produits ou de restaurants, d'hôtels, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit aussi fleurir beaucoup de commentaires sur des médecins, des masseurs, des kinésithérapeutes, des salons de coiffure. Ça, on a l'impression que ça prend aussi de plus en plus d'ampleur. Et d'ailleurs, les médecins peut-être pas, mais les coiffeurs, les salons de coiffure, ils sont eux aussi maintenant sur les réseaux sociaux pour tenter de communiquer, de rebondir, Olivier Guéroin.
Ah oui, je vous confirme. Moi, je vous confirme que j'ai mon chirurgien qui m'a demandé de lui mettre un avis sur Internet, ce qui m'a énormément surpris. Et voilà, effectivement, pour exister par rapport à la concurrence qui est là.
Mais c'est un bon chirurgien, ça ne veut pas dire que c'était
un
mauvais chirurgien.
Il était bon, je suis encore là, il est bon. Mais pour pouvoir exister par rapport à la concurrence, il faut impérativement le faire. Mais je voudrais juste réagir sur une chose qui a été dit. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'un professionnel, dans la mesure du possible, il faut qu'il réponde. Mais d'un autre côté, moi, il m'arrive de conseiller de temps en temps à des consommateurs d'être assez modéré dans l'avis qu'ils déposent. Franchement, ce n'est pas parce que le professionnel a mis 15 jours de plus à vous livrer qu'il faut le traiter de tous les noms sur un avis. Oui. C'est une diffusion publique et c'est punissable si vous portez atteinte à sa réputation. Un avis, ça doit être modéré.
Par exemple, les injures, les commentaires vraiment limites, c'est punissable comme aujourd'hui les propos déplacés sur Twitter, par exemple.
Bien sûr, ce sont des propos que vous tenez en public contre une personne identifiée. Traiter quelqu'un trop facilement d'escroc, c'est punissable. Cette personne peut tout à fait vous amener.
Et c'est vraiment puni. Honnêtement, il y a des amendes.
Ah, ça peut être ça puni. Vous avez des professionnels qui font effectivement des recours contre des avis qui ont été déposés. On a eu un restaurateur en ligne. Vous avez des tribunaux qui ont jugé un avis de consommateur qui a été mis sur un restaurant qui n'avait pas encore ouvert.
Oui, c'est ça.
Voilà, on est face à
J'ai vu cette histoire incroyable. Un journaliste anglais qui a réussi à piéger, justement, je crois que c'est le TripAdvisor, en 2017. Il a créé un faux restaurant à Londres. Il a demandé à ses amis de publier des avis, des commentaires élogieux, des fausses recommandations. Et attendez bien, 6 mois plus tard, ce restaurant était numéro 1 dans la capitale britannique, alors qu'il n'existait tout simplement pas. C'est hallucinant, cette histoire, hein, Virginie Pèze.
Ah oui, là, c'est vraiment l'effet pervers, quelque part, du système. Donc... oui, c'est assez dingue.
Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, vous, mais moi, quand je suis contente d'un endroit, souvent, je ne pense pas forcément à laisser un message. Hein. En revanche, si la viande était grillée, si le serveur a été mal aimable, si j'ai trouvé l'addition trop salée, là, je vais sans doute prendre mon clavier et écrire un message. Hein.
Oui, en fait, le consommateur a beaucoup plus tendance à se plaindre qu'à donner des avis positifs. Donc, c'est vrai que les avis sont souvent beaucoup plus négatifs que élogieux. Oui. Donc ça, c'est une tendance qui est connue.
Donc, il faut aussi faire attention et prendre en compte ce paramètre-là. Dernière question, un produit de qualité a-t-il vraiment besoin aujourd'hui de ces avis Internet ?
En fait, besoin d'un avis Internet. J'ai envie de vous dire, tout dépend de l'ampleur et de l'achat. Très souvent, en fait, plus l'achat est anxiogène pour le particulier, plus l'avis aura de l'importance. Aujourd'hui, acheter une fourchette en argent, il y a des avis, c'est très bien, mais ça ne va pas franchement changer la donne du consommateur. Donc, c'est la raison pour laquelle il est né des nouveaux...
Qu'est-ce que vous appelez un achat anxiogène ?
Un achat anxiogène, par exemple, si vous allez chercher un constructeur de maison individuelle.
Oui.
Vous voyez, ça, c'est un achat très anxiogène.
Ou un médecin.
Voilà. Quand on parle d'un médecin, on parle d'agent immobilier. On parle en fait de choses qui peuvent changer le cours de votre vie.
Ou une auto-école.
Une auto-école. Aussi. Et le choix du mauvais professionnel pourrait effectivement vous amener mal et loin.
Merci infiniment à toutes et à tous pour ce débat. Ambre Franzen, Olivier Guéraud, Virginie Pèze et Jean-David Lépineux. Merci aussi à notre restaurateur qui nous a gentiment appelé de Biarritz. Dans un instant, on va se retrouver sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Dans le Club des Idées, on va maintenant plonger comme chaque soir dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité. Ça s'appelle Le Jour où.
Un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Mathieu Bock.
Bonsoir Isabelle.
Aujourd'hui Mathieu, retour 7 ans en arrière. Nous sommes le 22 février 2014 en Ukraine. On est en pleine crise car Kiev refuse de signer un accord commercial avec l'Union Européenne, ce qui déclenche les fureurs de la rue qui refusent de se rapprocher davantage de la Russie.
Oui, et ce 22 février marque le dénouement de cette crise puisque le même jour, le président pro-russe Viktor Yanukovych est destitué par le Parlement et l'opposante Timoshenko, l'égérie de la Révolution française de 2004, est libérée après 4 ans de prison. L'ancienne première ministre apparaît alors sur la place de l'indépendance, surnommée place Maïdan, avec ses célèbres tresses nouées autour de la tête.
Je rêvais de voir vos yeux. Je rêvais de vous voir tous sur cette place. Je rêvais de voir cette force qui a tout changé. Je voudrais toucher chacun de vous pour partager ce moment. Vous êtes la force, vous êtes des héros.
Le même jour, donc, le président destitué Viktor Yanukovych s'enfuit. Les manifestants s'emparent de sa luxueuse propriété à côté de Kiev, comme le raconte l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, Walid Berissoul.
Et le président Yanukovych, qui a quitté dans la nuit sa datcha à quelques kilomètres, très vite investi par des milliers d'Ukrainiens, stupéfaits de découvrir le faste de la résidence d'un président désormais déchu, mais qui s'est exprimé à la télévision dans l'après-midi pour dénoncer un coup d'État. En fait, tout s'est passé comme si cet État ukrainien s'était dérobé petit à petit aujourd'hui sous les pieds de Viktor Yanukovych. Les opposants ont pris le contrôle du Parlement, ils ont fait tomber les cadres du régime les uns après les autres. L'armée a fait savoir qu'elle désobéirait à Yanukovych et donc le Parlement n'a fait que constater la vacance du pouvoir en votant la destitution de fait du président ukrainien.
Et en fait, Mathieu, si cette crise se dénoue en quelques heures, eh bien c'est parce que deux jours plus tôt, les affrontements ont été sanglants à Kiev.
Oui, vous allez l'entendre, les opposants ont affronté les policiers sur la place de l'Indépendance. Les combats ont commencé au petit matin sous les yeux de Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1, qui était alors en direct à l'antenne.
Je ne vois pas bien là où je me trouve, mais ils sont en train de donner une charge. J'ai vu plusieurs cohortes de policiers reculer. C'est bien la preuve qu'ils ont toujours l'intention d'en découvrir. Voilà, ça, ce sont des grenades assourdissantes lancées par les policiers qui s'étaient rapprochés ce matin à quelques mètres des barricades, alors que ces dernières 24 heures, ils restaient à distance. L'ambiance est plutôt tendue, alors même que les manifestants ont donné une sorte d'assaut et ont réussi à les faire reculer. Il y en a quelques-uns qui passent là, juste derrière moi, avec des boucliers un peu bricolés en bois, des bâtons, des casques, et les policiers ont clairement reculé là ce matin.
Alors les affrontements feront environ 80 morts ce jour-là. Cette révolution ukrainienne, comme les manifestants l'ont surnommée, débouchera sur une crise plus large, une guerre qui fera environ 13 000 morts d'après l'ONU et qui verra l'annexion de la Crimée par la Russie et un conflit larvé qui continue encore aujourd'hui dans la région du Donbass.
C'était le jour où. Merci beaucoup Mathieu Bock.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel de l'actualité avec Julien Pierce et puis musique avec vous, Émilie Mazoyer. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Isabelle.
Quel est le programme?
Alors ce soir, c'est une découverte. Enfin, les plus avertis connaissent déjà, ceux qui suivent vraiment l'actualité de la musique en France. Une jeune artiste qui s'appelle Marion Brunetto. Le nom de son groupe, c'est Requin Chagrin. Et le troisième album arrive bientôt. Alors, elle joue de tout, toute seule, le synthétiseur, la basse, la guitare, la batterie. Et elle est une artiste signée sur KMS, qui est le label de Nicolas Sirkis d'Indochine, gage donc de qualité.
Effectivement, bah ce sera une découverte pour moi ce soir.
Requin Chagrin.
Voilà, merci beaucoup Émilie.
Merci Isabelle.
Je vous souhaite une très belle soirée. Et d'ici, je vous retrouve demain, bien sûr, dès 18h. Et d'ici là, on écoute Le Monde Changer, bien sûr. À demain.
Europe 1, écoutez Le Monde Changer.